Il est 6h40, c'est l'heure du Journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Et Jacques, vous vous intéressez ce vendredi matin au développement personnel, dont les techniques, les guides ont un succès assez envahissant.
Oui.
Cela dénote, Jacques, une forme d'inquiétude quant à soi-même, une inquiétude qui se développe dans nos sociétés individualistes.
Eh oui, c'est que, Clara, la question de la vérité sur soi-même ne va pas de soi, comme en témoigne sa constante récurrence dans l'histoire de la pensée. Dans un ouvrage ambitieux qui vient de paraître chez Gallimard sous le titre « Être soi-même, une autre histoire de la philosophie », Claude Romano entreprend une archéologie de l'authenticité, des stoïciens à Heidegger, en passant par Saint-Augustin et la philosophie médiévale, les manuels de civilité de la Renaissance, Montaigne, Rousseau et Kierkegaard, où l'on voit que l'aspiration à la souveraineté individuelle d'une vie dégagée des conformismes, conduite en fonction de sa nature propre qui s'est répandue tardivement dans nos sociétés occidentales, est en réalité aussi ancienne que la philosophie elle-même. Platon nouait déjà étroitement la question du souci de soi à celle du souci de la vérité. Le mot grec « vérité » renvoie d'ailleurs à cette implication dans la connaissance de soi, « aletheia », formé du privatif « a » et de « l'été », qui signifie l'oubli. L'oubli de soi est la pente fatale dans l'activité, les plaisirs superficiels, l'addiction ou le vice et le mensonge. Claude Romano souligne qu'au départ, la signification du mot « vérité » se réfère non pas à la logique du discours ou de l'énoncé scientifique, mais à une disposition personnelle, le premier sens d'aletès étant sincère, franc, loyal, juste, équitable. Le latin « verus » provient probablement de l'indo-européen commun « vera », qui signifie « ami, digne de foi, vrai ». C'est ainsi que la sincérité dans nos rapports aux autres s'enracine dans la vérité à l'égard de soi. Mais le plus difficile est de maintenir l'exigence d'authenticité sur soi-même, car le moi peut faillir ou s'éclipser, tout en restant lui-même, qu'il s'égare dans les impasses de la mauvaise foi ou, dans le meilleur des cas, celui par exemple de la promesse, qu'il se projette dans un avenir sans contenu assuré. Le livre explore les innombrables métamorphoses de l'idéal d'authenticité personnelle dans l'histoire de la pensée ou des représentations religieuses et culturelles, s'arrête en détail sur la conception d'un naturel construit à la Renaissance, la fameuse sprezzatura, nonchalance et désinvolture, qui affiche une absence de calcul soigneusement calibré, à laquelle s'oppose la revendication d'une nature humaine qui se cherche sans faux-semblant chez Montaigne, l'époque baroque des sociétés de cour où cette exigence déjà moderne décline dans un jeu de conventions comme chez Castiglione et son livre du courtisan. L'existentialisme ramène l'exigence d'authenticité dans sa pureté et son austérité au devant de la vie éthique chez Kierkegaard. Aujourd'hui, cet idéal, souligne Claude Romano, ne peut briller au firmament de notre culture que parce que celle-ci accorde à l'individu une absolue singularité et surtout une véritable dignité. Encore faut-il savoir éviter les pièges tendus par les techniques de contrôle au service du néo-management et du coaching d'entreprise inspiré par le nouvel esprit du capitalisme qui renvoie chacun à sa fragilité et à son isolement sous le prétexte de sa responsabilité individuelle assumée envers et contre soi. Là est sans doute l'origine de l'inquiétude diffuse et rémanente qui explique le succès de la littérature pseudo-scientifique du développement personnel. La dernière livraison de la revue Tracé est consacrée à la notion problématique de singularité pour les sciences sociales, plus soucieuse de généralisation que d'attention au cas particulier. Son éditorial souligne les ambivalences d'une société qui individualise les rapports au monde social mais qui augmente l'incertitude, l'angoisse ou l'incapacité d'atteindre l'idéal de la singularité sous l'effet notamment des pratiques du management de la subjectivité, l'idéologie gestionnaire de la performance ou la psychologisation des problèmes sociaux. Pour les sciences humaines, la singularité implique un changement de paradigme, mais il est déjà largement engagé, comme l'a montré l'enquête orchestrée par Bourdieu dans La misère du monde à partir de témoignages biographiques de travailleurs immigrés immigrés, couples de clochards ou de petits agriculteurs, policiers, infirmières, étudiants, qui se heurtent à la violence des verdicts du marché scolaire, aux contraintes impitoyables du marché du travail ou du logement, aux agressions insidieuses de la vie professionnelle. Dans le domaine historique, après la microstoria italienne, les études de cas particuliers éclairant tout un pan de l'époque se sont multipliées, comme chez Yvan Jablonka, le fait divers analysé comme un objet d'histoire à travers le meurtre de la jeune Laetitia qui alliait deux dimensions sociales, la vulnérabilité des enfants et les violences envers les femmes. Paradoxalement, soulignent les auteurs, la singularité peut cacher la forêt du mimétisme social, l'emprise de la société de consommation et des codes dominants.